Bonjour. Bienvenue à l'Église évangélique de Meyrin. Bienvenue aujourd'hui pour ce culte de baptême. Une bienvenue toute particulière à vous, Elisa, Alexia et Christian, qui avez choisi de vous faire baptiser aujourd'hui. Et une bienvenue également particulière, une bienvenue spéciale pour vos amis, vos familles qui sont venus nombreux pour être témoins avec l'Église de votre engagement pour Jésus-Christ. Je vous invite à nous présenter maintenant devant notre Dieu. Nous prions. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, nous nous présentons devant toi avec crainte, avec tremblement, car qui peut se tenir devant toi sans frémir? Tu es le Dieu qui a lancé les galaxies à travers l'espace. Tu es le Dieu qui, dans le secret de nos cellules, tresse notre ADN. C'est toi qui, dans tes mains, tiens les clés de la vie. Éternel Sauveur, nous nous présentons devant toi à cause de Jésus-Christ, ton Fils. Il nous a parlé de toi, il a donné sa vie, il nous a ainsi fait connaître ton nom, notre Père. Et maintenant, Père Tout-Puissant, Sauveur, envoie sur nous ton Saint-Esprit, pour que notre intelligence, nos cœurs, soient disponibles à ta présence. Amen. Nous allons maintenant chanter que Dieu est un Dieu puissant.
Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Je ne sais pas si tout le monde le connaît, vous avez les paroles là. Et c'est un chant qui a été choisi par un de nos baptisés. Alors, en leur honneur, les trois chants que vous allez entendre sont des chants qui ont été choisis par nos baptisés. Gloire à Dieu.
Jamais, ô mon âme, rends gloire à ton Saint.
jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue t'appartiendra. Quand mon âme
Yeah. Quelqu'un vient de me confondre avec un arbitre de rugby. C'est pas le cas. Donc je me présente, Roger Souel, je suis pasteur dans l'église. Ici, bienvenue à tous nos invités. C'est vraiment dans la joie que nous sommes ensemble ce matin. Je suis là pour dire quelques mots sur ce que nous allons vivre ensemble. Donc, quel est le sens de ces gestes du baptême que vous êtes venus voir, assister peut-être pour la première fois pour certains? Alors, à quoi ça peut rimer? Alors, je vais lire un passage dans la Bible qui est dans une lettre qui est écrite à l'église qui se trouvait à Rome à l'époque. Et je vous invite à écouter ce texte. Et ensuite, je vais donner quelques explications. Je cherche juste s'il y a un de nos traducteurs présents pour... Non, ce n'est pas le cas. Si jamais, pour traduire en anglais, quelqu'un se sent... Cette tâche peut se rendre vers la porte. Je lis donc dans la lettre aux Romains. Merci, Evie. Chapitre 5, verset 19. Par la désobéissance d'un seul, beaucoup sont devenus pécheurs devant Dieu. De même, par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. La loi est intervenue pour que le péché prolifère, devient beaucoup plus manifeste, évident. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé pour que, comme le péché a régné par la mort, de même, la grâce règne maintenant par la justice, pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Quelques versets plus loin, « Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été enseveli, ça vous allez voir tout à l'heure, mais pas littéralement. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en relation avec sa mort, afin que, comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Ça, c'est pour une lecture sur le baptême dans la Bible. Alors, comme j'ai dit, je vais dire quelques mots avant qu'on écoute les témoignages de celles qui se font baptiser. Le baptême représente donc notre appartenance à Jésus, une identification à Jésus-Christ. À sa mort, oui, mais aussi à sa résurrection d'entre les morts. Nous croyons, et les baptisés vont professer leur foi, que Jésus a entraîné tout ce qui nous séparait de Dieu, couramment nommé le péché dans la Bible, toutes nos fautes, il les a entraînés avec lui, dans sa mort. Et il les a laissés enfouis à tout jamais. c'était la première raison de sa vie donnée pour nous, d'enlever tout ce qui nous sépare de Dieu. Et sa résurrection ouvre la porte à une vie qui est toute nouvelle. Une vie où Dieu est maintenant au centre. Donc, par reconnaissance, voilà ce que nous disons en nous faisant baptiser. Nous disons notre désir de vivre d'une manière nouvelle, de vivre de la vie de Jésus ressuscité. C'est-à-dire, on vit en cherchant maintenant à plaire à Dieu en tout premier lieu, plutôt que de faire à sa tête, si vous voulez. L'image dans la première partie de la Bible, le peuple de Dieu qu'il a appelé à lui a dû franchir la mer Rouge pour entrer dans la terre promise, la terre qui leur a été promise. Et c'est intéressant, dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, les baptisés, après avoir été plongés dans l'eau, prenaient symboliquement du lait et du miel pour signifier qu'ils étaient entrés dans le pays. Voilà. On n'a pas prévu ça ce matin. Hein. Le baptême, c'est aussi, pardonnez-moi terme technique, l'incorporation, l'entrée dans l'Église de Jésus-Christ. Dans une des traditions chrétiennes, le candidat disait à l'Église réunie, ou invitait l'Église, « Veillez sur moi dans l'amour. Veillez sur moi dans l'amour. Aidez-moi à honorer Jésus dans ma vie, pas seulement le dimanche matin, mais au quotidien. » Veiller ne veut pas dire surveiller. On n'est pas en Corée du Nord ici. Mais la Bible parle de cette responsabilité réciproque. Encouragez-vous les uns les autres. Consolez-vous les uns les autres. Édifiez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Accueillez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Donc, il ne faut pas ignorer l'aspect communautaire du baptême. Veillez sur moi dans l'amour, comme le Seigneur Jésus veille sur chacun des siens, c'est-à-dire pour notre plus grand bien. Et finalement, le baptême, comme on dit couramment, c'est un acte d'obéissance, parce que le Seigneur Jésus a dit « Allez dans toutes les nations et faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». C'est ce que nous allons faire donc, en obéissance. C'est aussi un acte de confession, c'est pour ça que nous allons écouter leur témoignage maintenant. Confession publique de notre foi en Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur. C'est aussi un acte d'engagement. C'est comme quand on signe un contrat. Pour revenir au rugby, si on est engagé par une équipe, on s'engage à respecter les règles et puis désormais, il y a un manager, un entraîneur, qui dit comment il faut jouer. Les enseignements de Jésus sont à vivre. Juste pour revenir sur les ceux et celles qui se faisaient baptiser dans les premiers siècles, ils devaient faire 3 ans de catéchisme. Et si, après ce temps d'instruction, d'enseignement, de découverte des enseignements de Jésus, de la Bible, s'ils étaient considérés comme prêts, ils faisaient encore 3 mois de préparation. Et après, ils étaient considérés comme étant candidats à la mort. Pas très encourageant. Candidats à la mort. C'est ce qu'ils disaient parce que c'était chose dangereuse de professer Jésus comme seul Seigneur à l'époque. Comme c'est le cas en plusieurs, beaucoup de pays dans notre monde d'aujourd'hui. Il y a un certain Cyprien, chrétien bien connu des premiers siècles, donc il était présenté ainsi après cette préparation pour son baptême. Il est sorti de l'eau. Tu es maintenant candidat à la mort. 10 ans après, mort décapité. Donc ce n'est pas quelque chose que nous vivons à la légère. Nous voulons nous associer maintenant à nos baptisés qui vont dire ce qui est leur conviction, pourquoi ils arrivent là. Donc je laisse la place d'abord, c'est toi Elisa, je reste auprès de toi.
Bonjour. Donc, je m'appelle Elisa. Je suis la fille de John et Brigitte.
Tout le monde entend bien?
Je suis née dans une famille chrétienne. J'ai toujours été très bien entourée. J'ai toujours fréquenté l'église évangélique de Mérin. Pour moi, quand j'étais petite, j'ai toujours bien aimé venir ici. C'était cool d'aller le dimanche matin à l'église et au pote du dimanche. Et je croyais en Dieu, je savais qu'il m'aimait, etc. Mais je pense que c'était plutôt comme beaucoup d'enfants, je vivais plutôt dans la foi de mes parents et j'avais pas vraiment de foi, moi, j'avais pas de relation avec Dieu, etc. Et donc, toutes les histoires qu'on me racontait au pote du dimanche ou que ma grand-mère me racontait, j'ai toujours su que c'était vrai, j'ai jamais vraiment eu de doute par rapport à si Dieu existait ou pas. Mais comme j'ai dit, j'avais pas de relation personnelle avec lui. Et vers l'âge de 13-14 ans, j'ai remarqué que j'avais un peu un manque dans ma vie, que j'avais Dieu, etc., mais qu'il manquait quelque chose. Et donc, j'allais au caté. Et c'est là où je me suis rendu compte le plus, c'est que quand j'entendais Xavier, Jean-Yves ou Roger qui racontaient leurs histoires ou qui témoignaient, je sentais que quand ils parlaient, ils avaient quelque chose en plus en eux et qu'ils avaient quelque chose que moi, que j'avais pas. Et après, je me suis rendu compte que beaucoup de gens aussi autour de moi avaient ce truc en plus dans leur vie. Et puis, je me suis dit, j'ai aussi envie d'avoir quelque chose parce que, j'ai aussi envie d'avoir ce truc en plus. Mais je recherchais pas. Enfin, je disais j'avais envie, mais je faisais rien pour pouvoir l'avoir en fait. Et donc, comme j'ai dit avant, j'ai toujours été bien entourée avec ma famille, mes voisins, mes amis, etc. Mais je voulais toujours avoir un ami ou une amie chrétien engagée, avec qui je puisse partager ma foi, qu'on puisse s'encourager, etc. Et c'était un truc qui manquait dans ma vie, mais je me suis dit, j'étais adolescente, donc je me suis dit, c'est pas important, c'est pas le truc le plus important dans ma vie, etc. Alors, j'en parlais à personne, et voilà. Et je faisais aussi le camp potentiel, c'est un centre aéré pour les enfants. Et un jour... il y avait, je sais plus quel jour, il y avait un message spécialement pour les adolescents. Et donc, j'étais allée, mais j'avais pas vraiment écouté le message. J'étais plutôt, j'y vais parce que je dois y aller, et puis c'est tout. à la fin, on nous a proposé qu'on prie pour ceux qui voulaient. Puis, je me suis dit, je vais y aller parce que quelqu'un prie pour nous, ça fera jamais de mal. Je suis restée, j'ai demandé qu'on prie pour moi, mais j'avais pas vraiment de sujet de prière. Mais le monsieur, il a commencé à prier pour moi, donc je le connaissais depuis 2 jours, et il a prié d'abord, il a demandé à Dieu qu'il me bénisse, etc. Et après, il a commencé à prier, puis il disait, Il demandait en gros à Dieu que je puisse avoir une amie, un ami chrétien avec qui je pouvais partager ma foi. Et j'étais trop touchée parce que, enfin, je le connaissais depuis 2 jours, j'en ai jamais parlé à personne. Et puis, dans sa prière, il savait exactement, enfin, il avait trouvé exactement les mots. Et si je pleure, c'est normal. Hein. Et donc, c'est le premier truc qui m'a trop touchée. Et puis, le temps, il passait et j'ai recommencé à faire les camps avec la Ligue. Des camps que je recommande à tout le monde. Et là, en faisant des camps avec la Ligue, j'ai rencontré plein de gens aussi avec qui j'ai gardé de très bons contacts, avec qui je me suis super bien entendue, avec des gens avec qui je peux aussi maintenant partager ma foi. Et je suis aussi rentrée au groupe de jeunes cet été. Et là aussi, j'ai rencontré plein de gens merveilleux. Et, en gros, dans la prière, ils demandaient une personne et Dieu m'a donné 20, je sais pas combien de personnes en plus. Et donc, si on est amis, c'est que vous êtes la réponse à ma prière. Et donc là, j'ai commencé à vouloir rechercher Dieu aussi parce que je me disais, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose et que je pouvais pas continuer à passer devant. C'est bon, c'est pas grave, j'ai eu ma vie et puis voilà. Et donc, j'ai voulu rechercher cette relation que les gens avaient. Et donc, petit à petit, je développais comme ça ma relation avec lui. Mais il y avait toujours quelque chose qui me bloquait. J'avais un blocage, je ne savais pas ce que c'était. Et à l'époque, comme beaucoup de gens le savent, j'étais très fan de Justin Bieber. Mais c'était vraiment... j'étais hystérique. Il définissait ma vie, en fait. Et ça allait vraiment très loin. Et en fait... pour moi, c'était normal de bien aimer. Je me disais, je peux être chrétienne et bien aimer une star. Mais je me rendais pas compte vraiment de ce que c'était, toute l'importance que je lui portais. Et à une soirée chrétienne, il y avait un orateur qui parlait des chaînes et de ce qui nous retenait d'avancer vers Dieu. Et puis, j'écoutais pas vraiment non plus parce que je me disais, de toute façon, moi, j'ai ma foi et puis j'ai ma relation avec Dieu et puis j'ai pas besoin d'écouter. Et donc, j'écoutais pas vraiment. Et puis donc il parlait et puis d'un coup je me suis rappelée d'un message qu'un ami avait apporté au groupe de jeunes. Puis je me souviens d'une image qu'il avait donnée, que c'était en fait comme si un peu notre vie c'était une liste et que si on ne mettait pas Dieu en premier, que ce qu'il y avait en dessus de Dieu, Dieu ne pouvait pas s'en occuper. Et donc j'ai pensé à ça et après j'ai un peu plus écouté le message et à ce moment-là. L'orateur, il faisait aussi un appel et il disait qu'on avait ces chaînes et puis que c'est ce qui nous empêchait d'aller vers Dieu et puis qu'il fallait pas avoir honte d'affirmer qu'il y avait quelque chose qui nous retenait d'aller vers Dieu et qu'on pouvait pas s'en libérer nous-mêmes. Et donc, j'aimais pas trop non plus les appels parce que je me disais à chaque soirée, ils font un appel et puis tout le monde se lève, tout le monde va prier, etc. Et puis ça me dérangeait un peu. Mais je me suis quand même levée et quelqu'un que je connaissais pas a prié pour moi sans forcément parler de Justin Burrow comme ça. Et il a prié, et puis j'ai ressenti une immense paix. Mais vraiment, c'était trop... J'étais trop impressionnée parce que je me sentais trop bien. Et je suis rentrée, et puis du jour au lendemain, l'importance que je tenais pour Justin Bieber, elle avait disparu. Mais c'était... Enfin, si vous m'aviez vu avant, vous seriez même vous choqués. Bah, c'était vraiment... comme ça, c'était parti. Et puis, Dieu m'a délivré de ça, il m'a délivré d'autres choses, il m'a appris aussi à m'accepter comme j'étais. Et je dis pas que maintenant j'ai une vie parfaite ou comme ça, mais c'est juste que, enfin, je pense que la solitude déjà c'est quelque chose qui peut être assez présent dans ce monde et juste de savoir qu'on n'est pas seul, enfin qu'on vit les choses avec quelqu'un et puis qui est toujours là pour nous soutenir et c'est juste trop beau. Et oh purée. Il m'a aussi aidé, il m'a fait changer la vision des choses, il m'a montré la vie comme elle était vraiment. Et je suis trop reconnaissante pour ce qu'il a fait dans ma vie,
Désolée.
Pour ce qu'il a fait aussi dans la vie de mes parents, dans la vie de ma famille, et il m'a sauvée, et c'est ce que je souhaite à tout le monde, parce que c'est vraiment la plus belle chose qu'on puisse avoir. Et j'ai accepté Dieu comme Seigneur et Sauveur. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Voilà.
À
Alors Christian, je t'invite à monter, Christian Claire. Donc je crois que toi, tu as un parcours un peu différent, pas de Justin Bieber, non.
Bonjour à tous. Je m'appelle Christian, j'ai 61 ans et je fréquente avec mon épouse Rosemary l'église évangélique de Mérin depuis environ 8 mois. Chacun pour soi. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Ça, c'était avant. J'avais un poste à responsabilité, j'avais un bon salaire, j'étais autonome, je vivais ma vie. Ma vie spirituelle était inexistante. Les pratiques et traditions religieuses issues de mon milieu familial ne m'incitaient pas à m'approcher de Dieu. Il était très loin de ma vie. Je vivais égoïstement, sans me soucier des autres, qui ne m'intéressaient pas vraiment. Je fuyais les marginaux. Jamais je n'avais une pensée pour Dieu. Je n'aimais que la musique moderne, en écouter et en jouer étant plus jeune, et j'aimais les ordinateurs. La lecture en général ne m'avait pas beaucoup intéressé, au-delà des magazines qui traitaient justement d'informatique ou de musique. Par contre, j'aime toujours écrire. J'ai toujours cru qu'il devait exister un Dieu en tant que créateur de l'univers. Je considérais que je n'avais pas besoin de lui, ni lui de moi. J'avais bien ce qu'on appelle une conscience qui me faisait distinguer ce que je pensais être le bien et le mal. J'étais tout de même un gentil, aimé de ma famille. Je ne savais pas si j'étais heureux ou satisfait de ma vie. Je ne me posais jamais la question. Il fallait faire avec. On peut toujours rêver d'avoir une plus belle voiture, un plus bel appartement. Dieu n'avait rien à voir avec la vie que je m'étais choisie. Après 60 ans de vie sans Dieu, une période d'incertitude professionnelle m'a donné l'occasion de me remettre en question. En voyant mon épouse, très croyante, lire souvent sa Bible King James, en priant dans son coin, j'ai senti que ce curieux livre pourrait peut-être m'intéresser et que je pourrais moi aussi y jeter un coup d'œil, juste pour voir. Avec tout ce qu'elle me disait à propos de Dieu, peut-être y avait-il du vrai. Qui sait si Dieu pourrait m'aider à surmonter ma difficile situation d'incertitude? Est-ce que seuls les chrétiens devaient lire la Bible? Je me suis alors souvenu d'un épisode de ma vie antérieure où j'avais rencontré, dans un contexte militaire, celui qui soulagea mes peines devant les difficultés physiques et morales d'être soldat par des paroles réconfortantes. Il était déjà évangéliste et sut m'inviter à me rapprocher de Dieu. Il m'offrit donc une Bible. J'avoue que la lecture de cette Bible me parut alors rébarbative, pleine d'expressions compliquées. Je n'étais pas encore prêt à rencontrer Dieu. J'ai déposé cette Bible dans un tiroir où elle resta oubliée pendant 40 ans. Il y a quelques mois, j'ai, grâce à Dieu, par le biais d'Internet, repris contact avec cet évangéliste qui m'inspira pour trouver une Bible dite expliquée. En progressant dans sa lecture, j'ai trouvé un grand intérêt, aidé aussi par des personnes capables de répondre à mes questions d'une manière éclairée. La petite graine plantée en moi il y a 40 ans par mon ami Reynald Kuffer a germé. Reynald et son épouse Josiane, aujourd'hui, me font l'honneur d'être présents ici. C'est par la lecture de la Bible que la mise en évidence du Christ Jésus, que j'avais oublié, s'est révélée comme une présence indissociable de la parole de Dieu. D'autres livres développèrent aussi mon approche de la foi. Je compris que la Bible, que Jésus était indissociable de Dieu le Père, puisqu'il en était sa représentation sur terre dans le Nouveau Testament. J'ai vu, il n'y a pas si longtemps, le film « La Passion du Christ » de Mel Gibson. C'est un film des plus marquants que j'ai pu voir. Cette vision m'a profondément impressionné, car elle m'a semblé refléter fidèlement la souffrance du Christ sur la croix. J'ai maintenant une solide opinion sur qui est le Christ et son influence par la Bible. J'ai suivi un premier cours biblique par Internet, puis un second et même un troisième. Les explications données ont dissipé mes doutes. Le salut passe par la foi et par Jésus. J'y crois maintenant. Ça, c'est maintenant. J'ai un nouveau job. Je travaille dans le social. Je réinsère des personnes en difficulté physique ou mentale dans la vie active. Imaginez la mission confiée par Dieu à moi qui fuyais les marginaux. Avec l'aide de Dieu, je suis en train de réussir ce challenge. Et lui-même semble-t-il apprécié de ma hiérarchie. Je veux être sur la liste des sauvés, accéder à la vie éternelle. Seul Jésus peut m'aider à atteindre ce but. Alors je m'en remets à lui avec toutes les difficultés que je rencontre dans la vie de ce monde. Ma vie a un but. Mon regard sur les autres a changé. Je ne suis plus seul au monde. C'est en progression, en progressant dans la lecture de la Bible, en parlant à d'autres personnes et en demandant à Dieu son aide, que mon orientation de vie a été modifiée au fil des jours. J'ai retrouvé le sens du partage, du besoin d'aller au culte le dimanche, de me recueillir, de parler de mon changement de vie, d'en faire modestement profiter d'autres personnes qui d'ailleurs n'ont pas toujours accueilli favorablement ma métamorphose. J'ai plus de patience, plus de tolérance. Je pardonne plus spontanément. Ma relation avec les autres s'améliore beaucoup. Je veux étudier davantage encore la parole du Seigneur et mieux la comprendre. M'approcher encore de Jésus, lui faire confiance, accroître encore ma foi. Je veux accepter de me soumettre à Jésus sans contrainte, de suivre sa parole en évitant les pièges de ce monde. Je veux communiquer avec lui tous les jours, tout le temps. Je veux lui soumettre tous mes projets, toutes mes peurs et mes joies. Je veux vivre dans la paix. Je veux me baptiser. Amen.
Bonjour tout le monde. Vous êtes trop nombreux. Je vais fermer un œil, vous serez moins nombreux. Alors, je m'appelle Alexia. Certains d'entre vous me connaissent. Je suis là depuis à peu près un an dans cette église. Avant, j'avais grandi dans l'église évangélique du Réveil. Et j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc avec un grand-père pasteur, les parents responsables du groupe de jeunes. Enfin, il n'y a pas plus chrétien, quoi. J'ai toujours connu Dieu, en fait, depuis que je suis petite. J'ai baigné dedans, j'ai toujours su qu'il existait. Et puis, c'est souvent par ma famille, par l'école du dimanche que j'ai appris qu'il existait, mais c'est pas mal par les camps que j'ai appris qu'il m'aimait. Et donc, en fait, chaque année, j'allais à un camp de vacances où j'apprenais que Dieu m'aimait, voilà. À la fin, on pouvait donner sa vie à Dieu. Alors, moi, je donnais ma vie à Dieu. Et puis, l'année d'après, j'y retournais et je redonnais ma vie à Dieu. Et c'était comme ça, une boucle. Et puis en fait, chaque année, j'apprenais un petit peu plus sur lui, où j'avais l'impression que l'année d'avant, j'avais mal fait, alors il fallait que je le refasse. Et c'était comme ça pendant un moment. Et moi, ça m'allait. Enfin, je grandissais pas vraiment, mais on va dire que je connaissais Dieu, quoi. Et puis, il y a quand même eu un moment un peu charnière dans ma relation avec Dieu. C'était il y a 4 ans à peu près, où j'étais un week-end du groupe de jeunes. Donc c'est le groupe de jeunes du Réveil. Et on était partis, avec tous les jeunes. Et puis, le samedi soir, on faisait une soirée un peu spéciale où, en fait, il y avait un prêche et puis à la fin, on pouvait s'avancer et on priait pour nous. Alors moi, je me suis dit, bon, go, on prie pour moi, c'est parti, quoi. Et puis, je me suis dit, j'aimerais bien recevoir le Saint-Esprit. C'était quelque chose que j'ai l'impression qu'il me manquait dans ma vie. Alors, je me suis approchée pour recevoir le Saint-Esprit. Alors, on prie pour moi. Je vois les autres autour de moi qui le reçoivent, qui pleurent et tout. Et moi, je reçois rien. Alors rien, de chez rien. Et j'étais un peu vexée, je vous avoue. Alors je me suis un peu éclipsée comme ça, plus loin. Puis j'ai un peu cogité toute seule et je me suis demandé pourquoi moi je le recevais pas, qu'est-ce qui se passait, est-ce que je faisais les choses mal ou quoi. Et pendant que je me pensais un peu à voix haute comme ça, je me disais mais c'est fou ces gens qui reçoivent le Saint-Esprit et ils pleurent. C'est quand même dingue. Enfin, moi, je rêve de ça depuis. Enfin, ça faisait un moment que je le voulais quand même. Et Et puis, enfin, je le pensais, hein, juste. Et puis, je me disais, mais moi, si je le reçois, qu'est-ce que je rêverais? Je sais pas, sauter de joie, rire, pleurer, ou, enfin, pas pleurer, mais pleurer de joie, quoi. Enfin, voilà, enfin, je pensais ça, mais dans ma tête, quoi. C'était pas plus important que ça. Et voilà, donc j'étais comme ça, tranquille. Et puis, à la fin du week-end, je suis rentrée chez moi. Et je sais pas pourquoi, mais j'avais une conviction. C'était super naïf. Et j'étais sûre que l'année d'après, le même samedi, même jour, même heure, j'allais recevoir Saint-Esprit. Je sais pas d'où ça m'est venu, je sais pas comment ça se fait, mais je suis rentrée chez moi et j'étais sûre que j'allais le recevoir. Et même dans mon agenda, c'était marqué samedi 15, Saint-Esprit. Enfin bon. Alors, l'année passe, j'étais toujours persuadée que j'allais le recevoir. Le week-end arrive, le samedi arrive, l'appel arrive. Et en plus, c'était un message spécial Saint-Esprit. Alors, je me suis dit, c'est bon, ça y est, c'est ça et tout. Alors, je m'approche et j'attends qu'on prie pour moi. Alors, il y a le pasteur qui vient, il prie pour moi, il pose la main et tout. Et il se passe rien. Alors là, je vous explique pas. C'était la frustration. Et j'ai commencé à me dire, mais c'est encore ma faute, je l'ai mal fait, j'ai douté ou je sais pas quoi. Et je me suis dit, bon, bah, tant que je suis devant, autant servir à quelque chose. Alors, je me suis retournée vers ma copine qui était à côté de moi, avec qui j'avais grandi, j'avais fait le caté, je la connaissais bien. Et j'ai posé ma main sur son épaule pour prier avec elle, quoi. Et au moment où je la touche, en fait, je ressens une chaleur. C'était comme une chaleur un peu puissante, comme ça, qui traverse mon bras. Puis elle arrive dans mes poumons, un peu dans mon corps, comme ça. Et c'était puissant. C'était j'avais chaud. Et puis en même temps, je grelottais et je claquais des dents. Et j'arriverai jamais à vous expliquer exactement ce qui s'est passé, en fait. Mais j'ai ressenti que c'était Dieu, quoi. J'avais une paix immense. Et enfin, je souhaite à tout le monde de ressentir ça parce que c'est génial. Et j'étais là comme ça, puis alors j'étais bien, j'étais avec Dieu pendant un bon moment, je suis restée comme ça dans la prière. Et puis à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que c'est pas moi qui suis en train de, je sais pas ce que, enfin mon cerveau il a commencé à, je me suis réveillée, je sais pas ce qu'il a dit. Et au moment pile où je me suis mise à douter, en fait j'ai eu un fou rire, mais c'était le fou rire de ma vie, c'était le truc. C'était nerveux, j'arrivais pas à m'arrêter et je me suis écroulée par terre. Les gens autour, ils ont dû me prendre pour une malade. Et je suis restée à fou rire pendant 10 minutes. Et c'était un peu comme si Dieu, il m'avait dit, ouais, bah, je t'avais entendu, tu vois. Puis c'est une sorte de clin d'œil qu'il m'avait fait. Enfin, j'ai trouvé ça génial de sa part de me faire comprendre que c'est lui par ce biais-là, quoi. Et puis en plus, enfin, le plus drôle, c'est qu'il m'a refait ça, en plus. C'est que l'année passée, au camp de ski, j'avais prié pour recevoir le parler en langue. Et alors, pendant la soirée, tout se passe bien et tout. Puis il se trouve que je le reçois. Alors, je me mets un peu à l'écart pour pouvoir profiter de ce moment avec Dieu. Et pendant que je priais, je parlais en langue et tout. Et à ce moment-là, il y a encore mon cerveau qui se remet en marche et qui me dit, attends, mais ce que tu dis, je comprends pas ce que c'est. Alors, si ça se trouve, c'est toi. Hein. Si ça se trouve, c'est pas Dieu. Et alors, au moment même où je doute encore, j'ai un nouveau fou rire. C'est un peu sa façon à lui de me parler. J'ai l'impression que c'est un peu notre petit délire. Enfin voilà, c'est moi j'aime bien cette façon de vivre avec Dieu, quoi. C'est depuis que j'ai vécu ça, c'était vraiment un changement assez radical, en fait, dans ma vision de la vie et dans ma vision de Dieu. Enfin, Dieu, je le vois plus du tout comme un barbu loin et qui existe et qui m'aime. Il est vraiment plus accessible. Je l'ai senti, je sais qu'il est là, je peux pas douter qu'il est pas là, quoi. Et je vois qu'il est présent, que quoi qu'il se passe, je peux avoir confiance en lui. J'ai pu tester de nombreuses fois la confiance avec lui, savoir que si je fais quelque chose de faux, ou s'il se passe quelque chose dans ma vie, des problèmes, hein, il va résoudre la situation à sa manière. Et il y a toujours une façon de faire si tu crois en Dieu, si t'as foi en lui. Et je sais pas, c'est comme si je voyais ma vie comme une sorte de route, comme ça. Et moi, je suis dans une voiture et j'arrive pas à voir plus loin. Je vois une route, c'est tout. Et en fait, j'arriverai jamais à savoir si la route elle va à droite ou à gauche. Mais Dieu, il est plus haut, il voit au-dessus de ça, et puis il voit où est-ce que la route elle va tourner. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il peut me le dire. C'est un peu comme un GPS, quoi. La voie, elle nous dit où elle est, puis nous, on peut croire de suivre ou pas. Alors moi, si il me dit d'aller à droite et que je vais à gauche, je peux. Le GPS, il va pas m'engueuler. Mais à gauche, il y aura un fossé, quoi. Ouais, ça m'a changé ma vision de Dieu dans ce sens-là, où je sais qu'il est là, et puis ça m'a changé aussi ma vision de la vie, profondément. Avant, mon but dans la vie, ben, C'était quoi? C'était rendre ma famille fière, avoir des amis, avoir des bonnes notes. Enfin, un truc un peu toutes les filles, tous les enfants veulent, quoi. C'est pas très grandiose. Et puis maintenant, ma vie, bah, c'est pas du tout ça. Ma vie, c'est Dieu. C'est ce que je cherche avant tout, c'est le rendre fier. C'est toujours suivre son plan, parce que je sais qu'il a un plan pour moi maintenant. Et c'est l'écouter un maximum, c'est comprendre ce qu'il veut. Et il y a une autre chose aussi qui a changé depuis que j'ai reçu un peu Dieu, c'est que en fait, je suis heureuse. Enfin, ceux qui me connaissent un peu, ils voient que je souris beaucoup souvent. Et c'est parce que je suis heureuse. Enfin, je dis pas que c'est un bonheur un peu comme quand on est avec ses amis ou quand on réussit son bac ou des trucs comme ça. C'est un bonheur profond qui est toujours là en fait. Quoi qu'il arrive, je sais que même s'il arrive des problèmes, enfin il y a des journées où vraiment ça va pas. Et quand je rentre le soir et que je me couche et je repense à ma journée, tout ce que j'arrive à voir, c'est que je suis heureuse, c'est que ma vie elle est belle, que quoi qu'il arrive, j'ai une famille, quoi qu'il arrive, Dieu il est avec moi et qu'il a donné sa vie pour moi, quoi. Le fait de comprendre cette dimension dans la vie, ben ça, enfin voilà, je souhaite vraiment à tout le monde de ressentir cette joie constante que j'ai avec Dieu. Alors voilà, c'est pour ça que je me fais baptiser.
Différents parcours, le même Seigneur. Maintenant, on va passer au baptême. Mais d'abord, j'aimerais juste vous poser une question. Et je crois que ça a tout son sens parce que le baptême signifie aussi un passage d'un royaume à un autre royaume. L'un visible, l'autre invisible. Le royaume où le mal est agissant, au royaume où Dieu est souverain. Il est souverain, mais on veut entrer dans le royaume où Jésus est Seigneur. Donc, je vous pose juste la question à vous, les baptisés, avant de passer aux actes, vous les trois ensemble, déclarez-vous maintenant que vous renoncez au mal, à Satan, que vous le reniez, vous le repoussez, que vous le reconnaissez désormais aucun droit sur vous. Vous le reconnaissez. Oui. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Alors, on va passer maintenant au baptême. J'espère que vous allez pouvoir voir. Donc, les gens derrière, vous avez le droit de vous lever, mais pas devant. Sinon, ils vont rien voir. Mais vous vous penchez d'un côté ou d'un autre. Et puis, voilà, sur le bord aussi, c'est bon. Mais veillez que vous ne bloquez pas la vue. Les enfants sont là. Donc, c'est Elisa qui va passer en premier. Elle n'est pas son papa. Et puis, j'invite les musiciens qui à monter. Ils vont chanter un refrain de ces chants qui ont été choisis par nos amis ce matin pour entrecouper. Ensuite, ils vont sortir, se sécher. Nous allons encore chanter avec nos musiciens. Et il y aura par la suite présentation de Bible et temps de prière. Voilà pour le déroulement. Alors, Elisa, nous avons entendu ton témoignage. Tu crois en un seul Dieu, Père de tous. Tu crois en Jésus-Christ, son Fils unique. Et tu crois en le Saint-Esprit qui nous est donné suite à notre déclaration de foi et la repentance. Oui, c'est bien ça? Oui, tu peux t'asseoir. Oui, ce serait bien. Ça va, Johnny? Okay. Johnny est blessé. Oui. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te baptisons, Elisa.
L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Ô mon âme, chante mon âme, pas à pas. suis. Au bord des eaux calmes, je le suis. Ô mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, Yahweh, Yahweh. Chasse au loin les ténèbres, Yahweh, Yahweh. Ta parole éclaire mon sentier, Yahweh, Yahweh, Yahweh.
Christian, c'est toi qui as une prière que tu aimerais prononcer.
Pour t'avouer mes péchés. Je te remercie d'avoir donné ton Fils pour moi par sa crucifixion comme victime expiatoire à ma place pour le pardon de mes péchés. Je me repens de t'avoir offensé et reconnais mon immense besoin de toi pour me purifier de mon passé et vivre une nouvelle vie. Je t'accepte comme mon unique sauveur et maître de ma vie. Je veux entrer dans ton royaume et je reçois ton Saint-Esprit que tu m'as promis dans Jean 7:37-38. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, que celui qui croit en moi boive. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir exaucé selon les promesses de ta parole. Merci, Seigneur. Amen.
Alors, suite à ta déclaration de foi, Christian, je t'invite à t'asseoir. Et avec ton premier témoin, Reynald, nous te baptisons, Christian, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alexia, nous avons entendu ton témoignage. Est-ce que tu confesses que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés? Et tu reconnais que maintenant il est ton sauveur, ton Seigneur? Alors, je t'invite à t'asseoir. Et c'est ton grand-papa, avec ton grand-papa, que tu te fais baptiser aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te baptisons. Amen.
prière aussi.
Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Sur le chemin, va sans peur.
Ah, je crois que c'est de circonstance, hein.
devant le saint trône.
Ce temps, maintenant, avec nos baptisés, nous désirons prier pour eux. Il y aura après une présentation de Bible avec un verset qui a été choisi pour chacun en premier lieu. Puis nous allons prier pour eux. Il y a des personnes qui étaient désignées, qui les ont accompagnées. Ensuite, il y aura le repas du Seigneur que eux ils vont distribuer. Si vous êtes devant des exigences quant au temps, il faut vous sentir libre de nous quitter à ce moment-là. Mais nous voulons prendre le temps les uns avec les autres ce matin et surtout avec eux et pour eux. Donc, je vais demander à Myriam de déjà venir pour Elisa et Alexia. Je crois que Christian arrive. Donc, nous allons écouter le verset qui a été choisi pour chacun.
Elisa, comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Par la bouche du prophète Ésaïe, 62, verset 5. Voilà, de la part de l'Église évangélique. Christian, Dieu dit, « Moi, je t'ai annoncé ces choses bien longtemps à l'avance. Tu as bien entendu. Regarde tes yeux, tout s'est réalisé. Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, que tu ne connais pas. » Ésaïe 48, extrait du verset 5 et 6. Alexia, Dieu te dit, « Je t'aime depuis toujours. » C'est pourquoi je te reste profondément attaché. Jérémie 31, verset 3.
Alors, j'invite les personnes qui ont été désignées de venir prier avec nos baptisés. Je vous invite à vous lever. Nous demandons le secours de Dieu pour le parcours, le chemin que vous avez choisi, un équipement que le Seigneur vous plonge dans son esprit pour que vous soyez équipés pour la route. Alors, donc, je propose que vous tourniez vers l'Assemblée.
Ouais, Seigneur Jésus, je te remercie pour Elisa qui t'a donné sa vie ce matin, Seigneur, et je te remercie parce que, voilà, elle veut te suivre toute sa vie et je te prie que tu puisses l'accompagner, que tu puisses lui révéler les plans que tu as pour sa vie, pour tous les jours, Seigneur, et que tu puisses ouais, lui montrer que tu es avec elle jour après jour, Seigneur. Et je te prie que, ouais, qu'elle oublie jamais cet engagement qu'elle a pris envers toi et puis que, voilà, qu'elle puisse toujours se tourner vers toi, quelles que soient les circonstances de sa vie. Amen.
Amen.
Alors, Christian, tu es devenu fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. et toi qui étais baptisé en Christ, tu as revêtu le Christ. Père, merci pour la grâce immense que tu as faite à Christian de devenir ton enfant. Merci parce que tu as accompli ta parole, tes promesses dans sa vie et tu veux le fortifier par la puissance de ton esprit pour qu'il t'honore, il te glorifie dans cette nouvelle marche avec toi, qu'elle soit vraiment cette marche en nouveauté de vie. Toi qui veux lui annoncer des choses nouvelles, selon ce qui a été lu tout à l'heure, nous te louons pour cet avenir rempli d'espérance à cause de toi, notre Seigneur Jésus-Christ, en qui il a mis sa confiance et dont il a témoigné aujourd'hui. Merci de le fortifier dans sa vie de couple, dans sa vie professionnelle, mais aussi dans ton Église, et de lui donner aussi toutes les capacités nécessaires pour te servir par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci de le protéger, avec les sœurs aussi qui sont baptisées aujourd'hui. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen.
Amen.
Merci Seigneur pour Alexia, pour ce choix qu'elle a fait ce matin, Seigneur. Merci parce que tu as travaillé dans son cœur pour qu'elle puisse prendre cette décision. Et je te prie pour que tu puisses vraiment la remplir de ton amour, Seigneur, que tu puisses la remplir de cette envie de te chercher encore plus chaque jour, Seigneur, de te découvrir encore plus, que tu puisses vraiment la protéger tout le long de sa vie, Seigneur, pour qu'elle garde les yeux fixés sur toi, Seigneur, qu'elle se souvienne que tu es toujours à ses côtés dans tout ce qu'elle va entreprendre. Je te prie pour que sa vie puisse être une lumière, Seigneur, qu'elle puisse vraiment briller pour toi, qu'elle puisse avoir un impact, Seigneur, sur la vie des gens que tu vas mettre sur son chemin, Seigneur. Je prie vraiment que tu puisses la bénir dans tout ce qu'elle va entreprendre, Seigneur, et que tu puisses la faire grandir encore plus à tes côtés, Seigneur. Amen.
Amen.
Seigneur, merci pour Alexia, notre petite fille. Merci, Seigneur, de ce qu'elle a pu prendre le baptême. Elle s'est plongée dans l'eau et elle est devenue vraiment, visiblement, une partie du corps de Christ, une enfant de Dieu. Seigneur, merci pour cette décision. Merci parce que tu as fait des promesses. Et je te demande, et nous te demandons tous ensemble, Seigneur, pour chacun de ces baptisés, qu'ils puissent connaître cette visitation par l'Esprit, ces fleuves d'eau vive qui jaillissent de leur vie. Seigneur, oui, remplis Alexia, mais remplis chacun des baptisés de cette puissance de l'Esprit qui nous rend capables au-delà de nos propres capacités, capables de discerner quelle est ta volonté, la pensée de Dieu. Seigneur, conduis-les dans le chemin que tu as préparé pour chacun d'eux. Au nom de Jésus. Amen.
Pour Elisa, pour Christian, pour Alexia, Seigneur Jésus, nous te bénissons. Tu leur as parlé, ils t'ont écouté, ils ont obéi. Ils sont ainsi pour nous, Église, ici réunis, et pour chacun d'entre nous, chaque individu, ils deviennent ainsi une source de bénédiction de ta part. Nous te prions maintenant de les accompagner dans leur vie quotidienne, leur vie matérielle de tous les jours, et nous le faisons en confiance, parce que tu l'as promis. Au nom de Jésus, amen.
Amen. Nous allons maintenant prendre ensemble le repas du Seigneur. Et pendant la distribution du pain et du vin, ce serait aussi l'occasion pour vous de vous exprimer dans la prière. Mais s'il vous plaît, à prier fort, si vous désirez prier à haute voix, que chacun puisse dire amen. Sinon, bien sûr, vous pouvez aussi prier dans le secret de vos cœurs. Et nous demandons aux baptisés de faire le service de distribution, si vous voulez rester avec nous sur l'estrade pour
l'écoute de la lecture qui va introduire ce moment.
Nous voici maintenant invités autour de la table du Seigneur. Le pain, le vin. Jésus dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Au travers du pain et du vin, Jésus s'offre à nous. Prenez, mangez, prenez, buvez. Il nous rejoint ainsi d'une manière différente que lorsqu'il nous parle. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des mots. Il parle à toute notre personne. Mangez, buvez. Sa présence est au-delà des mots. Elle n'est pas un idéal, elle n'est pas un sentiment. Jésus-Christ est Emmanuel, Dieu avec nous. Ici, il nous rejoint au cœur de notre personne.
Je lis dans la Bible un des passages qui parle de ce partage, ce repas auquel nous sommes invités par le Seigneur lui-même. Voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur, que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il rompit en disant, « Ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe. Il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée en mon sang. » Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur et ceci jusqu'à son retour. Nous sommes donc invités à participer à ce repas dans la mesure, bien sûr, que nous croyons dans la réalité du sacrifice de la vie de Jésus pour soi-même. Sinon, vous laissez tout simplement passer le pain et le vin si ce n'est pas encore votre conviction. Seigneur, nous te louons parce que tu t'es donné librement pour nous par amour. Le Père l'a voulu ainsi. Tu as suivi la voie tracée du Père pour notre salut, notre pardon. Tu es ressuscité, tu es vivant, et tu nous invites à marcher à ta suite dans cette vie nouvelle. Seigneur, nous venons à ta suite et nous prenons ce repas en reconnaissance à ta vie donnée pour nous. Amen. Il y a du jus de raisin au centre des plateaux, sinon c'est du vin. Et si vous préférez participer en buvant de la coupe, vous me faites signe tout simplement. Et je vais essayer d'être attentif.
Seigneur, comme le pain nous donne des forces, que ta présence, Seigneur Jésus, au cœur de nos vies, nous donne aussi des forces. Seigneur, comme le vin nous réjouit, que ta personne, Jésus-Christ, soit une source de joie dans notre vie de tous les jours. Amen.
Tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème pour que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin. tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras. Tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur.